おかしいおかしい。
Dialogue entre Congolais présents avec Alain Hirung à la présentation.
Bonsoir, un seul thème dans cette émission, poursuite des expulsions entre la RDC et l'Angola. Dans un communiqué daté du 8 octobre dernier, le gouvernement angolais annonce la suspension des vols de la compagnie angolaise TAG et en même temps appelle le gouvernement congolais à une rencontre pour trouver des solutions à cette situation. Comment analyser la position du gouvernement angolais et quelle lecture peut-on faire des relations entre les deux États? Trois invités participent à cet échange, ils interviennent tous au téléphone. Philippe Biyoya, professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique et directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir professeur.
Bonsoir à vous.
Kibanda Matungira, professeur des cours de sociologie de la communication politique, information et opinion publique à l'université de Kinshasa. Bonsoir professeur.
Bonsoir monsieur.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Expulsion des Congolais et Angolais. L'Angola annonce la suspension des vols de sa compagnie aérienne nationale, la TAG, à destination de la RDC. Dans son communiqué daté du 8 octobre dernier, le ministère des Relations extérieures de l'Angola déclare que c'est une réponse à l'expulsion des milliers d'Angolais en situation régulière en RDC. De son côté, le gouvernement congolais dit prendre acte de cette suspension des vols de la TAG. Le ministre de la Communication, Lambert Mende, affirme que la RDC attend la notification officielle de cette décision par l'Angola. Par ailleurs, il déclare que cette situation n'empêchera pas les deux pays de vivre en bonne intelligence. On écoute Lambert Mende au téléphone d'Axel Goncho.
Je ne connais pas les raisons pour lesquelles les vols de la compagnie angolaise ont été suspendus, donc il m'est difficile de confirmer ou d'infirmer ce que vous dites au sujet des raisons. Nous prenons acte du fait que TAG a suspendu ses vols pour une période non déterminée vers Kinshasa. C'est tout, nous n'avons pas de commentaires à faire. C'est une société commerciale, elle a probablement des raisons qui ne nous ont pas été communiquées. Nous allons probablement recevoir une communication du gouvernement qui détaille griefs, peut-être les identités des personnes qui se plaignent d'avoir été expulsées alors qu'elles n'auraient pas dû, et ça fera partie de l'agenda des discussions qui ont déjà été convenues. Ça ne nous empêchera pas de continuer à vivre en bonne intelligence avec nos voisins.
Professeur Philippe Biyoya, vous enseignez les relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Dans ce premier tour de table, comment vous analysez cette position du gouvernement angolais?
Merci, mais j'ai l'impression que là on va vers une détérioration des rapports. Hein. Il ne semble pas en fait se justifier, d'autant plus que l'expulsion de Congolais du sol angolais, c'est pas un processus qui commence aujourd'hui, hein, c'est un processus qui date déjà dans l'année 2005 déjà. Je crois que l'Angola avait déjà procédé à des expulsions de Congolais. Sauf que c'est la suite de la réaction du gouvernement de Kinshasa, que le gouvernement congolais angolais estime qu'il faille en fait franchir une étape pour poser en fait une série de actes. Je ne sais pas où se redacte. Je ne sais pas exactement quelle interprétation il donne. Sinon, sur le plan diplomatique général, on donne de thé que les rapports entre l'Angola et la RDC ne sont pas au bout. Et il y a là des signes perceptibles d'une détérioration de ces rapports, même si, comme Lambert Mende vient de le faire, on s'en tient encore à certains usages diplomatiques pour sauver un peu la courtoisie. Je voudrais attendre peut-être qu'on avance dans le débat pour que je donne mon appréciation encore à ce niveau. Sincèrement, je voudrais m'arrêter à ce constat d'une détérioration des rapports. La détérioration intervient à la suite des actions répétées, des brutalités en fait répétées des officiels ou loueurs angolais à l'endroit, à l'égard des Congolais qui seraient certainement en séjour illégal. Pour être en séjour illégal, parce que tu sois d'un pays voisin avec lequel nous avons une longue tradition, parce que les Angolais ont séjourné chez nous pendant des longues années pendant qu'ils étaient en guerre contre le Portugais. Et je ne pense pas, et nous avons en fait avec les Angolais des relations de convivialité, nous sommes des peuples, non pas seulement voisins, nous sommes des peuples frères.
Merci. Merci, professeur, pour cette première réaction. Professeur Bob Kabamba, vous enseignez à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Votre analyse de cette réaction du gouvernement angolais pour le professeur Philippe Biyoya, d'entrée des jeux, c'est déjà la détérioration des rapports entre les deux États.
Merci beaucoup pour la question. Donc, il faut savoir que par rapport à votre question, il y a deux dimensions. Une première dimension qui concerne la politique intérieure angolaise, c'est-à-dire que vous êtes sans ignorer que dans les prochains mois, il va y avoir tout un processus électoral qui va s'amorcer en Angola et que la plupart des Congolais qui sont en Angola et qui sont principalement dans les zones qui ont été dans l'ancien temps dans les chefs de l'UNITA. Et lorsqu'on parle processus électoral, ça veut dire que l'on parle au niveau des électeurs. Et lorsqu'on parle électeurs, on parle, ça veut dire aussi en termes d'élection par rapport à l'Assemblée nationale, par rapport à la représentation des citoyens angolais. Et que dans un tel processus, si il y a des Congolais qui sont en séjour en Angola et que ces Congolais arrivent à être enrôlés, à pouvoir être des électeurs dans le système politique angolais, cela risquerait de poser un petit déséquilibre au niveau de la représentation de la population angolaise. Et donc moi j'inscris plutôt l'expulsion des Congolais depuis qu'un habitant dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on expulse uniquement les Congolais qui sont dans les zones qui ont été principalement et prioritairement occupées par l'UNITA pendant la guerre civile. Donc c'est une première dimension. Deuxième dimension qui concerne votre question, et ça se concerne surtout au niveau de l'Afrique australe. Je rejoins le professeur Biyoya qui explique en disant qu'il y a effectivement une détérioration des relations avec l'Angola, mais il faut le mettre de manière globale dans l'Afrique australe. Il y a une détérioration manifeste des relations entre la RDC et d'autres pays de l'Afrique australe. Je ne vais pas tous les citer. Il y a le problème avec l'Angola actuellement, qui a aussi des dangers internes, mais il y a aussi la question sud-africaine où, depuis l'élection du président Zuma, les relations ne sont plus au beau fixe entre la RDC et l'Angola. Mais il y a aussi d'autres pays de la SADC avec lesquels la RDC a entretenu des relations et qui, pour l'instant, se détériorent. L'impression que ça donne, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une série d'événements au niveau régional qui participent à montrer effectivement que de plus en plus, la RDC est en train d'être isolée au niveau de la scène diplomatique régionale.
Merci, professeur Bob Kabamba. Professeur Kibanda Matungila, vous dispensez les cours de sociologie de la communication politique, information et opinion publique à l'Université de Kinshasa. Vous venez de suivre les professeurs Bob Kabamba et Philippe Biyoya, détérioration de rapports entre la RDC et l'Angola, une question de politique intérieure à l'Angola avec le processus électoral. Votre analyse?
Merci, monsieur le journaliste, de la question. Ce qui est évident et qui apparaît de façon manifeste, c'est la crise dans les rapports entre les deux pays. Ça, c'est incontestable. Je voulais souligner l'élément suivant, comme l'a dit le collègue Biyoya. Ce qui est en jeu, c'est d'accord, des rapports entre États, mais aussi des rapports entre peuples. Et il faut rappeler aux auditeurs que entre l'Angola et le Congo, c'est 2300 km de frontière. Il faut rappeler aux auditeurs aussi que, dans le cadre de la fraternité dont a parlé le professeur, que de part et d'autre de la frontière entre l'Angola et le Congo, c'est généralement un peuple. On peut partir du Bas-Congo, où vous avez des populations Congo, avec et la composante, par exemple, Solongo, que vous trouvez à Soyo, que vous trouvez à Mwanda aussi, et les populations Woyo, que vous trouvez à Mwanda, qui est trouvée au Kabinda, jusqu'à présent. Vous allez au Bandundu, vous avez des populations Chokwe, Rund, par exemple, que vous trouvez en Angola et au Kongo-Kinshasa. Vous avez la population Yaka, et des part et d'autre, des populations Soukou. Et ce qui est même très important, c'est que la reine, Mouriakama, la reine de Bassoko de l'Angola, est investie par un chef coutumier qui se trouve au niveau du Congo. Nous pouvons aller au Kasha et les populations, les mêmes populations que vous trouvez de part et d'autre, Tchoukou et Rund, de part et d'autre, jusqu'au Katanga. Donc, en fait, dans les discussions, dans toutes les séances politiques qui se déroulent ces derniers temps, dans les grandes conférences, la construction de l'État, on se rend compte que, de façon évidente, les États post-coloniaux n'arrivent pas à prendre encore en charge les entités de base, les composantes de base qui composent les États, c'est-à-dire les peuples, les éléments fondamentaux. Mais ceci dit, on se rend compte qu'effectivement, les circonstances, comme le collègue l'a dit tout à l'heure, le problème des élections en Angola, ça peut exacerber certaines situations comme celles qu'on a héritées, les litiges qu'on a hérité de la révélée de Savimbi. Mais cela n'est pas suffisant puisque pour les populations qui ont été chassées de Cabinda, ça ce n'est pas la zone où l'action de Savimbi a été très très prégnante, c'est plutôt la zone du FLEC. Donc, dans un premier temps, on peut noter qu'il y a crise des États africains dans leur capacité à prendre en charge les problèmes de base de leur population et surtout de la construction africaine.
Merci, professeur. Les auditeurs sont très nombreux à réagir sur ces sujets. Il y a par exemple Fabrice Kugaya de Kampala en Ouganda qui dit « Cette situation ne présage rien de bon entre la RDC et l'Angola. Les autorités congolaises ont intérêt à mieux gérer cette situation pour éviter le pire. » Maître Juvenal Munubo de Goma en Nord-Kivu, les autorités congolaises ne doivent pas minimiser cette situation. Déjà aux conséquences néfastes, une rencontre au sommet s'impose à mon avis pour décrisper rapidement ce malaise, professeur Biyoya.
Oui, moi je sais que je salue en fait la position de mes collègues amis, et je voudrais saluer à travers votre radio aussi. Il y a effectivement une forêt qui cache le fait, la vérité. Mais on a l'impression que depuis que l'Angola nous a assisté militairement dans la guerre de l'Est, l'Angola se serait attendu certainement à des dividendes. Et l'Angola semble, en fait, souscrire à la thèse qui avait été à la base de la guerre que nous avons avec le Rwanda, la guerre de l'ingratitude des Congolais. Je crois que c'est là tout le problème. Parce que, l'on a noté, je vous ai dit que l'expulsion des Congolais ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé déjà depuis presque bientôt, 5 ans. On expulse, si c'était pour des raisons des élections. Je crois que la meilleure façon, on ne procède pas des élections sans recensement. On aurait pu, en fait, recenser ces gens et savoir qui est Congolais, qui est Angolais, qui ne l'est pas. L'on expulse les Congolais des zones minières. Là, je note qu'effectivement, l'Angola a une préoccupation d'avoir, en fait, le contrôle plein de ces zones minières. L'Angola ne voudrait pas tomber dans le cas de notre pays, nous-mêmes, où nous n'avons pratiquement pas de précautions, nous n'avons pas d'attention, nous n'avons pas d'intérêt à protéger, nous ne sommes pas jaloux de nos ressources. Mais ce qui gêne, c'est que avant cette vague actuelle des expulsions brutales, l'Angola a occupé Kaemba, frontière. L'Angola semble encore, au jour d'aujourd'hui, vendre à qui voudrait l'entendre la thèse qu'il existerait dans le Bas-Congo et des zones contrôlées par les temps de FLEC qui demandent l'indépendance du Cabinda, alors que l'Angola a mené de vastes démarches pour acheter pratiquement tous les cabinets pour les introduire à l'intérieur. Ça pose des questions intérieures. Si pour des raisons, pour des questions intérieures à l'Angola, il n'y aurait rien à redire. Mais comment est-ce que l'Angola va jusqu'à suspendre, par exemple, les vols de l'avion, de la compagnie commerciale angolaise qui vient à Kinshasa, parce que les expulsés, ils ne prennent pas l'avion. L'Angola a voulu obtenir, en fait, de nous, des concessions sur l'exploitation illégale du pétrole dans les eaux congolaises, parce que vous savez que l'enclave de Cabinda, les frontières entre nous et l'Angola, ce qui concerne l'enclave de Cabinda, ces frontières ont été établies à la conférence coloniale de Berlin, où il n'y avait pas l'Angola, où il n'y avait pas nous. La Belgique n'était pas là, le Portugal était seul, donc il n'y avait personne qui défendait le Congo. Le Portugal a pu s'octroyer des espaces comme bon lui semblait, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait congéler au Portugal quoi que ce soit. Mais depuis que nous sommes les souverainetés, notre Sénat, notre Parlement, venait récemment d'adopter une loi, en fait, sur la fixation de notre espace maritime avec l'Angola, ce qui fait que, casse sur table, lorsqu'on voit les cartes d'exploitation des Angolais sur la partie qu'on a appelée zone d'intérêt commun,
l'on doit revoir les choses. L'Angola aurait voulu garder le statu quo. L'Angola aurait voulu, puisque nous aider dans la guerre, qu'on laisse couler les concessions. Je crois qu'il y a un peu du côté des Angolais, ce que je peux appeler de la malveillance. Et même lorsque ils demandent qu'on négocie, ils veulent le faire sur la base d'un rapport de force qu'ils estiment à leur avantage. Et je voudrais dire à mes frères angolais, et je crois que ce n'est pas une bonne démarche. Ce n'est pas parce qu'on nous a secourus pendant la guerre que nécessairement nous sommes faibles. Parce que nous, pendant 27 ans, l'Angola n'a pas été en paix parce que nous, nous avions un rapport de force qui était en l'air de faveur.
Voilà.
Ce que l'Angola fait aujourd'hui, je voudrais terminer, l'Angola a commencé à le faire parce que si aujourd'hui, si Mobutu est parti dans les conditions, il est parti, c'est parce que l'Angola veut que l'essor de l'Angola se joue en RDC. Donc, ici, nous ne sommes pas libres, nous ne pouvons pas amener au pouvoir des gens qui sont populaires au Congo si l'Angola ne les apprécie pas, si l'Angola est une zone de Mobutiste, il ne peut pas venir au pouvoir. Je crois qu'il y a une sorte de velléité d'impérialisme régional qui n'est pas, qu'il faut décourager du côté de l'Angola parce que je crois qu'il ne saura pas le faire pendant longtemps.
Merci, professeur Biyoya. Vous avez pratiquement lancé le ton hein, par rapport à notre partie sur la lecture hein, entre dans les relations entre Kinshasa et Luanda. Avant de donner la parole au professeur Kibanda Matungila et Bob Kabamba, sachez que les expulsions brutales observées ces dernières semaines de part et d'autre des frontières de l'Angola et de la RDC ont-elles détérioré les relations entre les deux pays. Depuis ce week-end, nous l'avons déjà dit, Luanda est passé à une autre étape déjà en suspendant les vols de la compagnie angolaise TAG vers la RDC. Quelle lecture peut-on à ce jour faire des relations entre Kinshasa et Luanda? Plus de détails dans cet élément de Kelimpoté.
Pour certains observateurs, bien anodin que peut paraître le geste que vient de poser l'Angola, cet acte constitue tout un message aux yeux de certains experts en relations internationales. En attendant de savoir ce qui se passe réellement entre la RDC et l'Angola, certains analystes pensent que la situation qui explose aujourd'hui a longtemps couvé sans que personne ne s'en aperçoive. Des signaux pourtant très clairs ont à plusieurs reprises mis en exergue des frictions des parts et d'autres. C'est notamment les problèmes de délimitation des frontières dans les provinces du Bas-Congo et du Bandundu, l'occupation successive et répétée de localités bas-congolaises de Kouzi et Savaïna par des éléments de l'armée angolaise, la récente incursion des soldats angolais dans le territoire de Tchela au motif de pourchasser des maquisards du Front de Libération de Kabinda, a signalé aussi le fait que l'Angola donne l'impression de traîner les pieds dans la conclusion du contrat d'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun ZIC. D'aucuns s'interrogent sérieusement sur le rapport entre le Congo et l'Angola et cherchent à savoir pourquoi ces deux États qui entretiennent une coopération militaire forte s'illustrent par des actes qui ont tout l'air d'une rupture diplomatique. Il faut noter ici la formation des FRDC à Kitona assurée par des Angolais. Comment expliquer aussi cette situation pour deux États qui siègent ensemble au sein de la SADC avec une frontière commune de plus de 2600 km?
Voilà, professeur Bob Kabamba, le professeur Biyoya avait déjà commencé à en parler, hein, et il a notamment relevé le problème d'exploitation pétrolière, problème de frontières et une certaine dette morale hein, que la RDC aurait face à l'Angola.
Oui, merci beaucoup pour la question, mais il faut savoir donc toutes ces questions-là, de nouveau se retrouvent par rapport à un agenda de politique intérieure à l'Angola. Si l'on prend la question pétrolière, on sait très bien que l'Angola devient un des chouchous de la politique américaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Angola actuellement est à 7% d'approvisionnement de pétrole des États-Unis. Et il est clair que par rapport aux États-Unis, et avec la visite d'Hillary Clinton lors de sa dernière tournée africaine, le démontre très bien, c'est que l'Angola devient un des chouchous des États-Unis comme le Congo l'avait été à l'époque de la guerre froide, mais ici on était dans une sous des intérêts stratégiques, mais on est sous des intérêts liés au pétrole. Mais il faut aussi se rendre bien compte que lorsque l'on prend à dimension de crise pétrolière, la manne pétrolière de l'Angola actuelle dépend aussi de l'exploitation du pétrole dont une partie se trouve en zone exclusive économique de la RDC, qui n'est pas nécessairement sur le territoire angolais. Et ça, c'est une chose. Ça veut dire que lorsque l'on commence effectivement à faire aller les enchères de cette façon-là, c'est une façon aussi de se dire que la manne pétrolière, dès que l'Angola l'a, ne lui permet pas non plus de pouvoir clairement avoir une politique économique comme elle l'avait prévu, sans tenir compte de l'exploitation qu'il peut faire de la zone exclusive économique qui est en RDC. Ça, c'est une chose. et je répète, je le redis de nouveau, c'est que la dimension quand même politique est aussi forte sur la dimension politique. Et vous savez très bien qu'actuellement, malgré l'analyse que l'on peut faire du pouvoir de Santos, c'est qu'une partie de son pouvoir vient quand même de l'assise qu'il a au niveau de l'Assemblée, c'est-à-dire du Parlement angolais, et que si le Parlement angolais, avec les positions qui sont actuellement avec l'UNITA, qui pourrait, grâce notamment à la présence de certains Congolais qui peuvent voter dans les partis qui concernent donc l'UNITA, on peut avoir effectivement toute une série de guerres, de sièges, etc., et qui peuvent arriver à faire basculer quand même la politique intérieure en Angola. Et donc c'est ces deux dimensions-là qui sont quand même importantes. Et puis n'oubliez pas non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dimension quand même régionale, c'est que le Congo de plus en plus a quelques difficultés, avec pas qu'avec l'Angola, mais avec aussi d'autres pays de la SADC. Il faut aussi souligner cette dimension-là, qui à mon avis est tout aussi importante. Parce que l'Angola ne pourrait pas aller dans une surenchère comme elle le fait actuellement, si d'autres pays de la SADC pouvaient intervenir ou bien se plaindre par rapport au processus d'expulsion qui est en cours en Angola. On remarque, j'essaie de lire un peu les différentes dépêches au niveau régional, je ne vois pas un pays de la SADC qui s'indigne par rapport à l'expulsion des Congolais de l'Angola vers la RDC.
Professeur Bob Kabamba, à cet effet, hein, il y a un auditeur, Kakuli Sefou de Kalemio Katanga, qui se dit pourquoi la SADC garde le silence face à cette situation qui prévaut dans la sous-région. Quelle est vraiment sa raison d'être?
Parce que tout simplement, ce qu'on a remarqué depuis quelques mois, c'est que, comme je l'ai dit, le Congo est de plus en plus isolé au sein de la SADC. Même si le président Zuma est venu au sommet de la SADC pour pouvoir permettre au Congo de pouvoir être président de la SADC, n'oubliez pas que le président Kabila est président de la SADC et président aussi d'une autre organisation qui s'occupe plus ou moins de même matière, et donc à un autre niveau, dans une autre sphère. N'oubliez pas non plus que la RDC est de nouveau dans la CPGL, elle est dans la CDAO, donc elle est dans toute une série d'organisations régionales, ce qui fait que même si le président Kabila est président de la SADC, ça ne suffit pas à pouvoir imprimer un certain leadership au niveau de la SADC, et ça ne passe pas très bien au niveau de notre pays qui ne font pas partie de toute une série d'organisations régionales. Et c'est ça qu'il faut souligner en disant que c'est ce qui est assez étonnant que tous les pays de la SADC, la plupart des pays, ne réagissent pas. Il n'y a pas de communiqué d'indignation ou bien même de proposition de pouvoir demander au gouvernement angolais de surseoir sa politique d'expulsion. Par contre, on a un silence, et quand on dit silence, on a l'impression que pour l'instant, qu'au niveau régional, c'est qu'il n'y a pas de désapprobation de la politique qui est mise en place par l'Angola.
Professeur Bob Kabamba, avant de repasser la parole au professeur Kibanda, pourquoi la RDC est isolée d'après vous? En un mot, je vous en prie.
Ben, parce que tout simplement, c'est que la RDC, elle est disparate, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau régional, la RDC n'a pas une politique claire au niveau régional. Quand je parle régional, ça veut dire en termes de définition des régions au niveau africain. La RDC, elle est dans la SADC. La RDC, elle est dans le CEMAC. La RDC, elle est dans la CPGL. La RDC est de nouveau dans l'Organisation d'Afrique centrale, etc., etc. Et donc, la RDC est dans toute une série d'organisations régionales. Et or, quand on définit une politique régionale, c'est d'avoir une politique régionale qui permet de pouvoir arriver à ce que, au niveau régional, ça puisse permettre au Congo d'avoir un leadership régional dans un espace qui est défini et dans un espace clair. Merci. Lorsqu'on fait partie de plusieurs organisations, malheureusement, la vision claire n'apparaît plus. Et le chef de l'État est président, le président congolais est président de deux associations régionales. Et alors, on se demande bien quelle est la priorité qui va être au niveau de l'RDC. Est-ce que ça sera la priorité CEMAC ou ça sera la priorité SADC?
Professeur Kibanda.
Je vous suis.
Voilà, pour le prof Philippe Bioya, problème, les enjeux sont de niveau économique et avec l'exploitation pétrolière, et pour le professeur Bob Kabamba, la RDC est pratiquement isolée à cause de son appartenance à plusieurs organisations sous-régionales et affiche un manque apparent de vision claire au niveau de ces sous-régions.
En fait, c'est clair qu'il y a un conflit d'intérêts, ça c'est tellement évident. Mais n'oublions pas que s'il y a une crise de leadership ou quoi ça, il faut, ce n'est pas seulement dans un sens unique. Si l'Afrique du Sud s'est associée à la RDC, si l'Angola s'est associée à la RDC dans la SADC, c'est que ces pays considèrent qu'ils ont des intérêts communs à défendre. Et je ne crois pas que c'est le Congo qui a seul à gagner dans la construction de la SADC. Les problèmes de leadership, ce n'est pas un sens unique. Je crois que quand on construit un ensemble comme la SADC, c'est en fait des interactions. Ce n'est pas seulement le leadership congolais qui devrait prédominer ou quoi ça, c'est une bonne compréhension des intérêts communs qui devraient faire que les responsables angolais, namibiens, zambiens, mauriciens, malgaches, considèrent qu'ils ont des choses en commun à défendre. Et leur politique extérieure devrait consister à voir quelles sont les concessions à faire, quelles règles, quelles normes communes élaborées pour que triomphent ces intérêts communs. Alors, à partir du moment où des partenaires au sein de la SADC trouvent que, parce que le Congo adhère à la CEMAC ou à la CPGL, que ça entrave leurs intérêts, et ainsi de suite, je crois que les structures qui existent au niveau de la SADC sont telles qu'on pourrait en discuter. Si on n'en discute pas, c'est que nous sommes dans une crise. Ce que j'ai appelé la crise des États postcoloniaux et même la crise de la construction africaine telle que on l'a pensé. On croyait que quels que soient les problèmes, il allait être possible à travers les mécanismes des ensembles régionaux, des ensembles sous-régionaux, de prévoir des mécanismes pour que on puisse discuter avec l'habitude de débattre des problèmes communs, que ces ensembles prennent corps à travers les expériences vécues, les expériences partagées. Alors, je suis d'accord avec Philippe que s'il y a des incidents qui se produisent, peut-être que c'est des symptômes d'un mal plus profond qu'on devrait diagnostiquer. Donc, je suis d'accord avec notre ami qui a appelé, je ne sais pas, de Calémou, de la province orientale, qui disait qu'il faut prendre ces incidents au sérieux et en discuter profondément. Je ne crois pas que c'est simplement le problème de leadership du Congo qui est mal défini, quoi, ce qui est en question, mais c'est la construction même des entités africaines qui est en question, quoi.
Professeur Kibanda, il y a d'autres observateurs qui affirment que le rapprochement entre Kinshasa et Kigali a fragilisé les relations entre Kinshasa et Luanda.
Cher ami, je crois que ne perdons pas de vue les événements qui se sont passés à l'Est avant ces rapprochements. C'était un problème de vie ou de mort pour les Congo. Donc, c'était clair qu'on était en train de perdre les provinces de l'Est. Pour les gens qui avaient des informations sur ce qui s'est passé à l'Est, cette décision qui était prise, c'était une décision courageuse. Évidemment, ça a eu des répercussions au niveau des institutions internes, au niveau du Congo. Mais je ne sais pas si le Congo avait trois alternatives par rapport à ce qu'on a fait.
Et professeur Kibanda, avant de redonner la parole au professeur Bioya, pensez-vous que l'Angola, comme a dit le professeur Bioya, voudrait revoir l'organisation sous-régionale en se donnant un peu plus de poids?
Bon, quelle que soit l'État, chaque État a des intérêts qu'il défend. L'Angola, c'est un pays frère, l'Angola a des intérêts. L'Angola, en tant qu'État, et même comme puissance régionale, a des intérêts à défendre. Mais comme l'a dit Philippe aussi, il n'est pas dans l'intérêt de l'Angola de créer des tensions inutiles, des désordres sur une frontière de 2300 km. Ni le Congo, ni l'Angola n'ont à gagner dans un tel conflit. Donc, la richesse de l'Angola dans l'avenir, les progrès de l'Angola de l'avenir doivent se baser entre autres sur l'harmonie à la frontière avec le Congo. L'Angola a intérêt à construire quelque chose de solide hein, pour l'avenir des deux peuples. Donc, les petits calculs à court terme, en fait, n'apporteront pas grand-chose, même à l'Angola, non plus au Congo.
Il y a cet auditeur, hein, professeur Vianney d'Ouvira au Sud Kivu, qui dit « L'Angola a aidé la RDC à se débarrasser de certaines rébellions. Cette situation n'est-elle pas la conséquence du non-respect de certaines conventions entre les deux États ?»
Écoutez, peut-être que les éléments qui sont à notre disposition, c'est possible que nous n'ayons pas tous les éléments qui sous-tendent la crise actuelle. Mais comme Philippe l'a rappelé, c'est que la dette est rituelle. Et le Congo a appuyé l'Angola dans sa lutte de libération, il ne faut pas l'oublier. Et puis, nous avons aussi de nombreuses choses à faire. Les 100 Angolais ici, les 100 Congolais aussi à couler à l'Angola pour la libération de l'Angola, nous ne l'oublions pas. Mais les choses les plus importantes sont à faire, et n'oublions pas, c'est le même peuple du Bato au Katanga que vous trouvez de part et d'autre de la frontière. Au-delà des considérations politiques, économiques et ainsi de suite, cette donne-là est fondamentale pour appeler nos dirigeants dans les deux États à penser à l'avenir au lieu de voir les intérêts à court terme.
Merci, professeur Philippe Bioya. Pour le professeur Bob Kabamba, tient sa position hein, qu'il y a un problème de politique intérieure à angolaise, mais il parle aussi de l'isolement de la RDC.
Oui, je ne vais pas répondre à Bob, mais je voudrais continuer sa réflexion. Je suis la politique angolaise personnellement. C'est depuis déjà plus de 5 ans qu'on annonce les élections présidentielles en Angola qui s'en tient pas. Depuis cinq ans, le MPLA n'est pas sûr et convaincu qu'il peut remporter les élections en Angola. Depuis 5 ans, si le MPLA avait vraiment une stratégie électorale, puisque le MPLA contrôle le pouvoir, le FNLA, ce n'est rien, l'UNITA, on ne voit même pas s'organiser. L'MPLA ne passait pas le temps à y imaginer le complot qui venait à la RDC parce qu'au jour d'aujourd'hui, le pouvoir qui est à Kinshasa n'est pas mobutiste, il n'est pas composé de gens qui avaient travaillé avec l'UNITA. Donc je crois que la peur de l'Angola, supposé que ça soit vrai, de ce que les Congolais pourraient travailler pour l'UNITA est une surestimation, elle est exagérée. Mais ce que je voudrais peut-être dire, lorsque là où Bob parle de l'isolement, le Congo n'est pas isolé. C'est que, en fait, la vérité, nous devons dire, tous les pays qui ont aidé le Congo, particulièrement l'Afrique du Sud et l'Angola, ils ont aidé le Congo sous le principe que le Congo ne devait plus devenir, en fait, un État, que le Congo n'aurait plus des ambitions. Le Congo, c'était seulement un espace minier dont on disposerait, dont on organiserait, parce que on ne veut pas aller dans les détails de vérité des choses peut-être qui ne sont pas avérées. Les Angolais eux-mêmes savent quels sont les projets qu'ils ont élaborés pour essayer de contrôler la situation aussi bien à Kinshasa qu'à Brazzaville. Et je crois que le mouvement de Bakongo à Brazzaville, où on a impliqué les catholiques, ne sont pas étrangers aux vérités angolaises d'un impérialisme sous-régional, à la fois à Brazzaville et à Kinshasa. Nous savons cela. Nous savons qui l'Angola aurait voulu porter au pouvoir à Kinshasa. Et nous connaissons les familles que les Angolais ont connues. Nous, on connaît toutes ces choses. Et je veux simplement dire ceci, qu'il n'y a pas d'isolement. L'Afrique du Sud, Zuma n'avait pas, Zuma, l'ANC, était aussi contrôlée par Mbeki, qui avait des relations particulières avec Kabila. Si Zuma a des raisons de ne pas composer avec les messagers de Kabila, qui étaient des amis de Thabo Mbeki ou de conseillers de Thabo Mbeki, ça, c'est sa raison. Mais il y a des Congolais à l'Afrique du Sud, mais j'étais au grand chevalier à l'Afrique du Sud avant les élections. Il y a des Congolais qui ont aidé Zuma et l'ANC à gagner les élections là-bas.
Professeur Bioya.
Le problème de l'Afrique du Sud s'est réconciliée avec l'Angola déjà du temps de Thabo Mbeki pour exercer ensemble un impérialisme sur la RDC qui n'a pas devenu puissance émergente. Mais je crois que là, c'était un mauvais calcul. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, peut-être que notre destin, nous, le Congo, c'est un destin de puissance qui passe par la guerre. Et jusqu'ici, peut-être, c'est pas parce que nous n'avons pas été en mesure de faire la guerre avec les Rwandais que nous ne serons pas en mesure de faire la guerre avec les Angolais. Mais l'Angola doit réfléchir plusieurs fois avant de penser nous imposer son leadership, parce qu'il se pourrait qu'il nous donne l'occasion, effectivement, de répondre, de remettre à la puissance, à la grandeur et à assumer notre vocation Parce qu'il pourrait être possible que notre armée faible aujourd'hui triomphe de l'armée angolaise qui a des ambitions qui deviennent une arrogance insupportable.
Professeur Bioya, je rappelle juste que dans cette émission, hein, nous ne faisons pas des appels à la guerre. On vous a invité à entendre
l'analyse. Mais l'analyse, c'est pas l'appel à la guerre, ça c'est l'analyse stratégique.
Voilà, on vous a invité à, en tant qu'analyste et je vous en prie, vous êtes très suivi. Essayez d'avoir un tout petit peu de réserve. Juste rappeler à ceux qui viennent de nous prendre en cours que nous parlons de la poursuite des expulsions entre la RDC et l'Angola. Dans un communiqué daté du 8 octobre dernier, le gouvernement angolais annonce la suspension des vols de la compagnie angolaise TAG et en même temps appelle le gouvernement congolais à une rencontre pour trouver des solutions à cette situation. Comment analyser la position du gouvernement angolais et quelle lecture peut-on faire des relations entre les deux États? Nous avons trois invités dans cette émission. Philippe Bioya, professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Bogo Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique et directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Kibanda Matungila, professeur des cours de sociologie de la communication politique, information et opinion publique à l'université de Kinshasa. Vous souhaitez réagir? Voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Voilà, les auditeurs sont très nombreux, comme je l'ai dit, hein, à nous écrire à ce sujet. Il y a Dieudonné Kiza de Bounia en province orientale qui dit « La RDC n'a-t-elle pas une dette politique de l'Angola, car un très grand ami d'hier ne peut devenir brusquement un mal-aimé sans qu'il n'y ait quelque part abus de confiance ?» Félix de Matadi au Bas-Congo, j'ai l'impression que le gouvernement congolais se trouve devant un dilemme, d'une part, une apparente position de faiblesse face au gouvernement angolais et d'autre part, la réaction de la population et des ONG de droits de l'homme. Professeur Bob Kabamba.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord souligner que mon collègue Philippe Bivet a dit effectivement que depuis 2005, le pouvoir angolais essaie d'organiser des élections comme il n'est pas sûr de les gagner. Ils ont commencé effectivement les expulsions à partir de 2005, comme il l'a souligné. Donc clairement, l'expulsion des Congolais rentre bien dans une dynamique de politique intérieure. Par ailleurs aussi, c'est que je voudrais aussi souligner qu'il n'y a pas que l'Angola, hein, qu'il y a des populations les mêmes entre le Congo et l'Angola. Il y a aussi le Rwanda qui a des populations rwandophones, on a des Burundais aussi qui sont au Congo, on a quand je dis Burundais, ça veut dire des populations d'origine burundaise, et il y a aussi des populations d'origine soudanaise, etc., etc. Le Congo et le Rwanda ont entretenu des amitiés et des liens très 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 forts pendant tout un temps, et il n'a pas fallu longtemps que les choses ont dégénéré. Et je peux citer aussi d'autres exemples historiques dans ce sens-là. Je veux dire par là ceci, que lorsqu'effectivement un pays, quel que soit le lien qu'il a avec un autre pays, dès l'instant que la RDC présente un enjeu clair par rapport à la politique intérieure de l'Angola, quels que soient les aspects économiques ou les aspects politiques, il va de soi, de manière très claire, que l'Angola va pousser plus loin. Et par rapport à ce qui est en train de se passer. Et quand je dis ça, c'est simplement pour essayer aussi de bien remettre les choses à leur place. De manière très claire, c'est que le Congo doit arriver à se positionner de manière très claire, c'est-à-dire quelle dynamique le Congo défend, et aussi par rapport à quel leadership le Congo doit s'inscrire. Lorsque l'on parle qu'il y a une alliance Zuma, Angola, par rapport à l'RDC, que l'RDC a déçu par rapport à leadership, ça veut dire de manière très claire ce que dit mon collègue Philippe Léa, dit de manière très claire qu'effectivement le Congo n'arrive pas à assumer le rôle pour lequel on veut que le Congo assume, et moi je mets cette difficulté du Congo à assumer un leadership clair dans ce qu'on attend du Congo, parce que le Congo n'arrive pas à se déterminer de manière très claire au niveau de sa politique régionale. Est-ce que le Congo fait partie de l'Afrique centrale? Est-ce que le Congo fait partie de l'Afrique australe? Est-ce que le Congo fait partie de l'Afrique orientale?
Professeur Bob,
cette dynamique-là, oui.
Excusez-moi, on n'a plus beaucoup de temps, mais que faut-il, à votre avis, hein, vous en tant qu'analyste politique, que faut-il pour améliorer les relations entre la RDC et l'Angola aujourd'hui, concrètement?
Concrètement, plusieurs choses. D'abord, il faut
que le Congo se domine de manière très claire par rapport à son espace régional. Et dans cet espace régional, l'Angola compte beaucoup dans l'espace régional. Et si l'Angola compte beaucoup dans l'espace régional, le Congo doit essayer d'avoir une politique claire dans la dimension qui va prendre deux dimensions. Dimension économique, notamment la question du pétrole qui est indispensable pour l'Angola, de manière très claire et vitale pour l'Angola, et que le Congo ne peut s'en sortir sur cette question du pétrole que si elle intègre cette dimension-là dans une politique bilatérale. Un peu comme à l'époque, on a eu la question du gaz, l'exploration commune entre la RDC et l'Angola. Ça veut dire que sur la question vitale de la RDC et du Congo, il faut qu'il y ait un accord d'exploitation et qui permette aux deux pays de s'en sortir par le haut.
Merci. Professeur Kibanda, à votre avis, que faut-il pour améliorer ces relations aujourd'hui? Le professeur Bob Kabamba a donné quelques éléments.
Je partage parfaitement le point de vue du professeur Kabamba, mais j'avais dit qu'il s'agit pour le dirigeant des deux pays d'identifier les intérêts communs, les intérêts vitaux. Et le professeur Kabamba vient de montrer que clairement, par exemple, pour le pétrole, il faudra qu'on arrive à une solution. Il faudra, quand je disais que ni l'Angola ni le Congo n'ont pas à gagner dans une confrontation, c'est entre autres à ça que je faisais allusion. Donc je partage parfaitement son point de vue.
Professeur Bioya, votre avis à vous pour améliorer les relations entre Kinshasa et Luanda?
On améliore la relation par des communications. Je crois que je comprends parfaitement la position du gouvernement angolais. L'Angola est dans la logique de l'intérêt national. C'est un pays post-conflit, c'est un pays plus jeune que nous. Et l'Angola a tout intérêt à travailler pour que l'intérêt angolais soit consolidé. Mais je voudrais demander aux Angolais de mettre aussi en fait un peu de la souplesse, de la rigidité dans la façon de traiter avec un pays qui a en fait aussi payé le prix de la libération de l'Angola. Au lieu d'accumuler des mesures de répression jusque par exemple la suspension des vols, ce qui est déjà une décision inamicale assez grave, je crois qu'on ferait mieux de s'asseoir, parce que moi je pense que l'Angola a des messages à nous envoyer à travers les institutions, des messages qui devraient nous responsabiliser, nous. Et je voudrais aussi qu'on ne parle pas seulement de l'Angola, qu'on parle de notre propre gouvernement. Parce qu'au lieu de passer le temps à réciproquer, je crois qu'il nous faut, pour que nous jouions notre rôle de leadership comme Bob le veut, que nous montrions responsables, que nous fassions la comptabilité d'abord de tous les Congolais qui sont dans les pays étrangers, notamment les pays frontaliers, que nous sachions ce que nous pourrons faire de ces Congolais si jamais, en fait, ce pays arrivait à prendre des décisions où les Congolais devaient sortir de leur pays. Parce que le problème qu'on a, on a l'impression que le Congo ne sait que faire des Congolais. Le Congo ne sait pas trouver du travail pour les Congolais qui sont au Congo, qui sont à l'étranger. Alors, on semble se résoudre à la diplomatie avec les autres pour faire porter aux autres pays les charges que l'on ne veut pas porter soi-même. C'est un vrai de l'irresponsabilité. Et je crois qu'en cela, Bob a raison lorsqu'il dit que les gens ne comprennent pas que nous ayons perdu l'essence, en fait, de l'histoire. Que nous ayons, en fait, les réflexes géopolitiques.
Je vous en prie, professeur, concluez, parce qu'il nous reste quelques secondes.
Oui, donc, c'était ça. Je pense, donc, moi, je m'adresse, non pas à l'Angola, je m'adresse à notre propre gouvernement.
Merci.
Qui doit trouver des voies de prendre en charge tous les Congolais qu'on chasse de l'Angola d'abord. Et puis après, on va essayer de régler le problème avec l'Angola.
Merci. Professeur Kibanda, en un mot aussi, pour conclure. Ah, décidément, nous avons des petits problèmes.
Les problèmes qui se posent à nous, on a amorcé les 50 années de l'indépendance. Il s'agit de non seulement d'analyser les problèmes internes qui se posent à nous, des problèmes vitaux, mais aussi les problèmes de coexistence, non seulement avec les voisins, mais aussi dans le contexte de la mondialisation avec les puissances dans le monde post-bipolaire.
Merci, professeur. Professeur Bob Kabamba, un mot aussi pour conclure.
Rapidement, c'est qu'il faudrait, comme mon collègue Bué a dit, que le gouvernement congolais, quand même, essaie d'apporter des réponses très claires à cette question qui est posée au gouvernement congolais et aussi qu'il puisse s'occuper des déplacés qui sont en train d'arriver par milliers.
Merci. Le dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos invités. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. J'ai cité Martin Sebujango à la coordination, Guy Mathieu à la réalisation, Kevin Couté au reportage, Samuel Kacha à Codette et Sylvain Matundou à la mise en onde. À demain, même chaîne, même heure.